Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Jésus a raconté des paraboles pour nous aider à mieux comprendre notre monde avec son lot de mystères et d'interrogations. Dans la série que nous continuons aujourd'hui, nous réfléchissons sur le sens de l'une d'elles, celle nommée la parabole de la mauvaise herbe.
Elle se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Notre lectrice Sandra va la lire.
Il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux, comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ?»« Non, » répondit le maître, « car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, « Enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. »
Alain est de retour parmi nous pour nous expliquer le sens de cette parabole. Bonjour Alain.
Bonjour Yann et bonjour à tous. La dernière fois, nous avons survolé cette parabole pour en tirer les principales leçons. Et aujourd'hui, comme prévu, nous allons commencer à nous pencher sur certains de ces détails de plus près.
Commençons donc avec le semeur. Qui représente-t-il selon vous ?
Jésus l'explique lui-même plus tard. Le semeur représente le Fils de l'homme.
Votre réponse soulève une autre question, car tous ne savent pas ce que la Bible entend lorsqu'elle parle du Fils de l'homme.
Vous avez raison, Yann. Le Fils de l'homme est une personne extraordinaire dont nous entendons parler pour la première fois dans le livre prophétique de Daniel. Voici le texte en question, chapitre 7, versets 13 et 14 du livre de Daniel.
Je regardais encore dans mes visions nocturnes. Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours, et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté, et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues, lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit.
Daniel a donc reçu une vision des lieux célestes dans laquelle se tenait une personne qui semblait revêtir tout à la fois une nature humaine, mais aussi une nature éternelle, voire divine. Daniel comprit aussitôt que cette personne, le Fils de l'homme, était le souverain roi et que son règne dépasse les frontières d'Israël, car il inclut la terre entière, toutes les nations, tous les hommes et toutes femmes. Son règne dépasse même les limites ordinaires du temps, car il est éternel, il durera à toujours.
Il s'agit vraiment d'une personne extraordinaire, mais quel est le rapport avec la parabole que nous étudions ?
Cette parabole confirme certains détails de la vision de Daniel. Car Jésus explique que le champ dans lequel le semeur sème ses graines représente le monde, la terre entière. Or, tout comme le semeur est le propriétaire du champ, le Fils de l'homme est le propriétaire de la terre. Autrement dit, il est souverain sur toute chose. Toutefois, la parabole introduit de nouveaux éléments qui n'apparaissent pas dans la vision de Daniel.
Éclairez-nous à ce sujet, s'il vous plaît.
Cette parabole révèle que le Fils de l'homme a un ennemi redoutable qui tente de tout gâcher. Il s'agit du diable. Il se rebelle contre l'éternel Dieu et il cherche désespérément à nous entraîner tous vers la destruction. Ainsi, la parabole introduit l'idée que pendant un certain temps, le royaume du Fils de l'homme coexistera avec des forces rebelles sous l'emprise du diable, et qu'il sera en conflit contre elle. Toutefois, la parabole lue nous donne l'assurance que cet état de choses sera temporaire, car le jour viendra où le Fils de l'homme triomphera. Il jugera tout rebelle, il établira son royaume parfait, et il sera révélé dans toute sa gloire.
Mais qui est ce Fils de l'homme? Pouvez-vous nous révéler son identité?
Les évangiles me semblent très clairs à ce sujet. Jésus est le Fils de l'homme.
Expliquez-nous la façon dont vous pouvez arriver à une telle conclusion.
D'abord, Jésus est clairement venu annoncer un message de la part de Dieu. Il est évident que le semeur dans cette parabole et celle qui la précède fait référence au ministère que Jésus accomplit. Jésus annonce la parole de Dieu. Et cette parole, comme les graines qui germent et poussent, fait jaillir la vie spirituelle dans le cœur de ceux et celles qui l'acceptent. En recevant les paroles de Jésus, nous devenons membres du royaume de Dieu. Il existe donc suffisamment de parallèles entre le ministère de Jésus et le contenu de cette parabole pour affirmer qu'en fait, Jésus est le Fils de l'homme. Cependant, nous trouvons une preuve encore plus convaincante qui nous conduit à la même conclusion.
Et quelle est-elle ?
À travers les évangiles, souvent lorsque Jésus parle de lui, il utilise pour titre « le Fils de l'homme ». En voici quelques exemples dans l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 10, il déclare « Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. » Puis dans l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 7, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et voici encore un dernier exemple parmi beaucoup d'autres dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 45. « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Il me semble donc clair qu'en adoptant le titre de Fils de l'homme, Jésus fait allusion à la prophétie de Daniel et il dévoile sa véritable identité qui est extraordinaire.
Que fait devant une telle conclusion, une telle vérité ?
Jésus a conclu l'explication qu'il donne à travers la parabole de la mauvaise herbe par les paroles suivantes. « Celui qui a des oreilles, qu'il entende. » Cette parabole révèle qu'il existe deux catégories de personnes sur la terre. Celles qui appartiennent au royaume du Fils de l'homme et celles qui suivent les voies du diable. Ainsi, à travers cette parabole, Jésus nous lance l'avertissement suivant. Le jour arrivera où Jésus viendra en juge et il bannira alors de son royaume parfait toute personne qui pratique le mal. Pour éviter un tel destin, aujourd'hui nous devons écouter Jésus. Aujourd'hui nous devons prêter attention à son enseignement. Aujourd'hui enfin nous devons lui faire confiance. Croire à ce qu'il annonce et trouver en lui le salut et le pardon. De même, nous devons nous soumettre à son autorité divine. Jésus est le souverain maître de toute la terre. Et tous ceux et celles qui se rebellent contre lui iront dans les temps de feu et de soufre.
Merci Alain pour vos enseignements clairs et instructifs. Nous allons à présent passer à notre courte méditation biblique, dont le sujet porte sur le fruit de l'esprit.
Nous nous pencherons plus exactement sur quelques paroles bien connues écrites par l'apôtre Paul dans sa lettre à l'église de Galates, chapitre 5, versets 22 et 23.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses.
Notre invité Patrick va désormais réfléchir sur chacune de ces qualités énumérées par Paul. Il nous montrera, dans un premier temps, la façon dont Jésus demeure pour nous un exemple à travers elle, et ensuite la manière dont le chrétien peut les reproduire. Aujourd'hui, il nous parlera de la fidélité. Bonjour Patrick.
Merci Yann pour cette introduction et bonjour à tous. Selon le dictionnaire, le Larousse, nous pouvons définir la fidélité en ces termes. Il s'agit de la qualité de quelqu'un constant dans ses sentiments, ses affections et ses attitudes. C'est également la qualité d'une personne qui tient ses engagements, qui ne manque pas à une promesse, qui ne trahit pas un serment. Par sa vie exemplaire, Jésus a prouvé sa fidélité envers Dieu son Père en accomplissant la mission qui lui avait été confiée. De plus, il s'est montré fidèle envers ses disciples, fidèle dans tous ses engagements. Or, aujourd'hui encore, Jésus demeure fidèle. Fidèle envers l'Église, fidèle envers chacun de ses enfants, fidèle à ses promesses. La fidélité et l'amour d'une personne envers une autre se révèlent essentiellement lorsque des difficultés surgissent et que des tensions pourraient en arriver à troubler les relations personnelles. La conduite des disciples, par exemple, aurait pu exaspérer Jésus. Ils étaient lents à comprendre à son enseignement. Par moments, ils le chamaillaient. Certains étaient animés d'ambitions malsaines. Ils pouvaient prononcer des paroles blessantes. Et durant les heures où Jésus aurait eu le plus besoin d'eux, ils l'ont abandonné. Judas en est arrivé à le trahir. Pierre, quant à lui, a nié le connaître. Comment aurions-nous réagi, entourés de telles personnes? Maintes fois, Jésus aurait pu se débarrasser de ses disciples et en choisir d'autres. Il aurait pu renoncer à son projet de les former et suivre à la place une voie plus facile. Non, bien au contraire. Jésus est demeuré fidèle et constant envers ses disciples, et ceci malgré toutes les péripéties vécues avec eux. L'amour de notre Seigneur envers eux s'est montré fidèle et patient. Il leur a tout pardonné et a poursuivi sa marche avec eux. Sommes-nous mieux que les disciples décrits dans les évangiles? Loin de là. Nous sommes lents à comprendre les paroles de Jésus, lents à les assimiler, son enseignement. Nous devons si souvent le décevoir. Lorsque nous obstinons à suivre nos propres voies, lorsque nous rejetons son conseil, sa sagesse, et nous rebellons contre son autorité. Et pourtant, Jésus demeure fidèle envers les siens. Il demeure constant dans son amour à notre égard. À travers tous les hauts et tous les bas de nos vies, Jésus est là. Il demeure présent. Il reste fidèle et veille sur nous avec amour. Oui, dans l'instant où Jésus accueille une personne sous son aile, il lui exprima sa fidélité. Jamais il ne l'abandonnera. Il tiendra ses promesses. Nous en parlons plus en profondeur la prochaine fois.
Merci de nous avoir rappelé la fidélité de notre Sauveur Jésus. Il est vraiment digne de confiance, digne aussi de recevoir notre louange.
En attendant d'écouter la suite de notre série la prochaine fois, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.